France Inter.
Aujourd'hui, la grande aventure de la biologie racontée par
Laurent Loison, historien et philosophe des sciences de la vie, directeur de recherche au CNRS.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Les rapports géologiques qui existent entre la faune actuelle et la faune éteinte de l'Amérique méridionale, ainsi que certains faits relatifs à la distribution des êtres organisés qui peuplent ce continent, m'ont profondément frappé lors de mon voyage à bord du navire le Beagle en qualité de naturaliste. Ces faits semblent jeter quelques lumières sur l'origine des espèces, ce mystère des mystères, pour employer l'expression de l'un de nos plus grands philosophes. À mon retour en Angleterre en 1837, je pensais qu'en accumulant patiemment tous les faits relatifs à ce sujet, qu'en les examinant sous toutes les faces, je pourrais peut-être arriver à élucider cette question. Après 5 années d'un travail opiniâtre, je rédigeais quelques notes, puis en 1844, je résumais ces notes sous forme d'un mémoire où j'indiquais les résultats qui me semblaient offrir quelques degrés de probabilité. Depuis cette époque, j'ai constamment poursuivi le même but. Mon œuvre est actuellement presque complète, il me faudra cependant bien des années encore pour l'achever, et comme ma santé est loin d'être bonne, mes amis m'ont conseillé de publier le résumé qui fait l'objet de ce volume. Une autre raison m'a complètement décidé, Monsieur Wallace, qui étudie actuellement l'histoire naturelle dans l'archipel malais, en est arrivé à des conclusions presque identiques aux miennes sur l'origine des espèces. Je suis pleinement convaincu que les espèces ne sont pas immuables. Je suis convaincu que les espèces qui appartiennent à ce que nous appelons le même genre descendent directement de quelque autre espèce ordinairement éteinte, de même que les variétés reconnues d'une espèce, quelle qu'elle soit, descendent directement de cette espèce. Je suis convaincu enfin que la sélection naturelle a joué le rôle principal dans la modification des espèces, bien que d'autres agents y aient aussi participé. Charles Darwin, De l'origine des espèces, 1859.
L'histoire a oublié le frère aîné de Darwin. C'est un Français, Jean-Baptiste Lamarck. En 1809, l'année de naissance de Darwin, Lamarck pose 2 lois essentielles de l'évolution. Premièrement, le milieu transforme les êtres vivants. Deuxièmement, ces transformations deviennent héréditaires. Un demi-siècle plus tard, Darwin reprendra ses idées et les mènera plus loin.
Extrait de la chaîne YouTube Ikari, documentaire avant Darwin. Bonjour Laurent Loison.
Bonjour.
Merci d'être avec vous, avec nous, vous qui publiez l'aventure de la biologie de Darwin à main d'aile aux éditions Grasset. Pourquoi avoir choisi de vous concentrer sur les grandes figures du 19e siècle pour raconter cette saga des sciences de la vie ?
Pour rendre cette saga pleinement vivante et accessible pour un public de non-spécialistes, ça c'est la première raison, pour montrer comment les trajectoires biographiques de ces personnages ont été un moment constitutif de l'histoire de la biologie, et aussi pour montrer que justement ces trajectoires biographiques, que l'on en général on considère indépendamment les unes des autres, appartiennent à un certain moment qui est vraiment le moment fondateur de la biologie, le moment où cette science de la vie construit son cadre général, à tel point que l'extrait que vous avez lu tout à l'heure du début de l'origine des espèces,
ouais,
tout est rigoureusement toujours vrai actuellement dans le détail de ces idées formulées par Darwin, ouais, au début de son ouvrage.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le moment où la vie devient une science, justement, ou pas ?
C'est le moment où la vie devient un objet de science et succède à l'histoire naturelle du XVIIIe siècle, quelque chose de nouveau qui s'appellera bientôt la biologie. Lamarck est un des premiers à formuler ce terme.
Ouais.
Et cette biologie a vraiment une naissance explosive, à tel point qu'en quelques décennies, entre le début des années 1830 et le début des années 1860, les grands concepts de la biologie sont formés, et c'est cette aventure que j'ai voulu raconter dans cet ouvrage.
Et alors, dans cette saga, on en reparlera tout à l'heure, mais qu'est-ce que représente Darwin et son origine des espèces, précisément ? C'est vraiment le point culminant ?
Je ne dirais pas le point culminant, mais évidemment, c'est un moment extrêmement important. Et ce que représente Darwin, c'est l'inscription de cette question du vivant dans l'histoire de la vie, dans l'histoire de la Terre. c'est montrer finalement qu'on ne peut pas comprendre le vivant en s'en tenant strictement à la physique et à la chimie, qu'il faut réinscrire aussi cette organisation biologique dans la durée des temps géologiques. Et c'est vraiment là où l'œuvre de Darwin est fondatrice et complètement fondamentale.
On y reviendra, Laurent Loison. Vous écrivez que votre livre est un antidote à la déconsidération de la biologie. Pourquoi cette science si essentielle est encore marginalisée ?
Oui, ça pour moi c'est toujours un relatif étonnement, mais la scientificité de la biologie n'est pas toujours très très bien comprise, y compris par les biologistes eux-mêmes d'ailleurs, et la biologie est déconsidérée parce qu'elle ne serait pas l'égale de la physique ou de la chimie en termes de rigueur expérimentale, en termes de formalisme, en termes de capacité à atteindre des lois vraiment générales de la nature.
Ce à quoi vous répondez quoi ?
Ce à quoi je réponds que...
S'il y a des grandes théories ?
C'est vrai que les lois de la biologie ne sont pas équivalentes d'un point de vue épistémologique aux lois de la physique ou de la chimie, c'est simplement parce que l'objet de la biologie, et c'est là où Darwin est très important, est un objet historique. Mmh. Et donc, on ne peut pas produire une théorie biologique de la même manière qu'on produit une théorie en physique, une théorie en mécanique ou une théorie en chimie.
Est-ce qu'il y a un problème dans la façon dont la biologie est enseignée également ?
Et certainement, puisque malheureusement maintenant, avec la réforme récente du lycée, on ne peut plus garder que 2 sciences sur 3 en terminale, et les élèves, en général les élèves qui sont bons en sciences, vont abandonner la biologie. Et s'ils font ça, c'est parce qu'ils sentent que la biologie, finalement, ne serait pas une science à l'égal des mathématiques, de la physique ou de la chimie. Donc de toute évidence, il y a un problème aussi dans la façon dont la biologie est enseignée, et on ne prend pas au sérieux le fait qu'on ne sait pas comment faire passer cette idée que la biologie est une science et qu'en tant que telle, elle a un discours général sur la vie et les vivants, un cadre théorique. Et c'est précisément les contours de ce cadre que j'essaye de dessiner dans ce livre.
Alors, commençons cette histoire. Il s'appelait Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, chevalier de Lamarck, plus connu sous le nom de Lamarck, 1744-1829. C'est la première grande figure de votre histoire. Qui était-il vraiment ?
Alors, Lamarck reste une énigme à plein de points de vue, et y compris du point de vue de sa biographie. On a très très peu de documents biographiques de Lamarck, surtout par exemple en comparaison de Darwin.
C'est un demi-siècle avant.
C'est un demi-siècle avant, et ça compte, puisque Lamarck est formé dans le contexte de l'histoire naturelle du XVIIIe siècle. Il est formé dans le contexte du siècle des Lumières, de l'encyclopédisme. Et donc, il n'a pas du tout les mêmes idées que Darwin un demi-siècle après lui. Et c'est quelqu'un qui vient de la petite noblesse picarde et qui va venir à Paris d'abord pour se faire soigner et finalement entreprendre des études de médecine, ce qui va le conduire à la botanique et finalement, après des détours, à faire une carrière du côté de la zoologie au moment où naît le Muséum d'Histoire Naturelle en 1793.
Alors qu'est-ce qu'il va comprendre sur les êtres vivants et qui sera perçu quand même comme révolutionnaire à l'époque ?
Alors, à l'époque, c'est pas évident. La manière de comprendre Lamarck est compliquée pour ses contemporains et rétrospectivement pour nous. Lamarck a de brillantes intuitions, c'est un spéculatif, c'est quelqu'un qui émet de grandes théories, c'est lui qui invente le terme de météorologie par exemple, pour décrire cette science de l'atmosphère. Il écrit des livres de géologie, il écrit des traités de physique et de chimie, et son idée, disons que l'idée centrale, s'il n'y avait qu'une idée à retenir de Lamarck, ce serait la suivante: il comprend que l'on peut constituer une nouvelle science, qu'il va donc appeler la biologie, et que cette science, ce n'est pas la science de la vie en tant que telle, mais c'est finalement la science de l'organisation. Ce qui caractérise les êtres vivants, qu'ils soient des végétaux, des plantes ou des animaux, c'est leur organisation interne. Et c'est autour de ça que Lamarck constitue ce qu'il appelle sa philosophie zoologique. C'est le titre de son ouvrage de 1809.
Mais est-ce que c'est la première théorie, justement, scientifique de l'évolution des espèces ou pas ?
Et c'est tout à fait la première théorie circonstanciée, développée, plusieurs centaines de pages publiées, argumentée aussi rigoureusement que possible, de l'évolution des espèces, dont il donne quelques linéaments dans son discours d'ouverture de l'an 8, en 1800, et ensuite qu'il va développer au fur et à mesure de livres, entre 1802 et 1820, pour son dernier ouvrage.
Et donc c'est lui qui invente le mot « biologie » ?
Et c'est un des inventeurs du terme biologie dans son sens moderne. On peut trouver plusieurs occurrences du terme. Le terme, exactement au même moment, c'est-à-dire aux alentours de 1800, est aussi inventé en allemand pour à peu près les mêmes raisons. Donc c'est bien pour signaler ce projet d'une science unifiée des vivants, les plantes et les animaux, qu'il propose le vocable de biologie.
Alors il commence sa carrière dans une chaire assez marginale du Muséum National d'Histoire Naturelle. En quoi cette position, qu'on pourrait dire un peu périphérique, a compté finalement dans son son travail et dans l'élaboration de sa théorie.
Oui, tout à fait, puisque pendant une vingtaine d'années, Lamarck est connu comme botaniste. Hein, c'est en tant que botaniste qu'il va se faire élire à l'Académie des sciences. Et en 1793, au moment où le Muséum d'histoire naturelle propose des chaires universitaires, la chaire de botanique est déjà prise. Et on propose à Lamarck une chaire dont on peut penser que peu de gens la voulaient, c'était la chaire des animaux microscopiques, des insectes et des vers.
Oui. C'est pas très sexy sur le papier.
En gros, tout ce qui n'est pas vertébré, tout ce qui n'est pas noble, tout ce qui est petit, qui vit dans des endroits humides. Et Lamarck, en l'espace de moins d'une décennie, va complètement révolutionner ce domaine de la connaissance et il va fonder les bases de la zoologie de ce qu'on appellera désormais les invertébrés. À tel point que les grands groupes taxonomiques de Lamarck vont demeurer scientifiquement pendant des décennies et certains jusqu'à aujourd'hui. Donc le travail est considérable.
Il va faire beaucoup d'erreurs ou pas dans l'élaboration justement de son travail.
De ce point de vue-là, très peu. De ce point de vue-là, très peu. Il va avoir une bonne intuition de la manière de ranger les espèces, de la manière de créer les grands groupes. Et autant sa physique et sa chimie étaient complètement fautives, autant sa météorologie était extrêmement scabreuse, autant sa zoologie...
Ah bon, pourquoi ?
Parce qu'il a proposé des almanachs et des prédictions qui étaient complètement folkloriques et qui ne pouvaient pas se vérifier avec les connaissances de l'époque. Et donc ça va contribuer à discréditer Lamarck en tant que scientifique, mais sa zoologie est vraiment une œuvre de première importance. Et d'ailleurs, on peut se demander s'il n'avait pas fait tout le reste, il serait certainement mieux considéré aujourd'hui à la lumière de cette œuvre zoologique.
En quoi sa pensée reste d'actualité encore aujourd'hui ? Alors, parce qu'on va parler de Darwin, évidemment, qui résonne toujours beaucoup à notre époque, mais Lamarck, c'est quoi sa place aujourd'hui dans la biologie moderne ?
Parce qu'il pose la question de l'organisation biologique, de la spécificité de cette organisation biologique, de la nécessité de penser sa survenue à l'échelle des temps géologiques. Vous ne pouvez pas imaginer la naissance spontanée d'un être vivant complexe sans le voir inscrire dans une longue généalogie. Donc toutes ces idées sont complètement d'actualité, à tel point que finalement la biologie moléculaire, à partir des années 1950-1960, ne fera rien d'autre que de poser la question de l'organisation du vivant à l'échelle des macromolécules que sont d'une part les protéines et d'autre part l'ADN. Donc le sillon tracé par Lamarck, entrevu par Lamarck, est d'une puissante actualité, quand bien même le détail de ses réponses ce détail est souvent faux et ses réponses sont souvent un peu baroques.
Donc c'est ça, c'est un style difficile et un peu fouillis, quoi, c'est ça, qui pourrait expliquer aussi qu'il n'est pas forcément percé.
Et par ailleurs, son style littéraire n'était pas extrêmement fluide. Il avait la volonté d'avoir le terme juste sans avoir le vocabulaire nécessaire, puisque ni les termes d'évolution, ni ceux d'hérédité, ni ceux de cellule ne sont disponibles au moment où il écrit, ce qui l'oblige à des périphrases extrêmement pénibles à lire, répétitives. Et effectivement, son style n'a pas fait beaucoup pour son œuvre.
Est-ce que ses travaux ont fait sa richesse ou pas du tout ?
Assez peu. Lamarck est quelqu'un donc, qui vient d'une famille relativement déshéritée, surtout en comparaison de Darwin, par exemple. Et il va longtemps avoir des soucis d'argent, liés aussi au fait qu'il sera à la tête d'une famille extrêmement nombreuse. Et malheureusement, plusieurs de ses femmes vont décéder successivement. Donc il va connaître plusieurs mariages. Et finalement, sa situation financière ne se stabilise qu'à partir de 1793, au moment où il devient professeur au sein du Muséum d'Histoire Naturelle. Mais à ce moment-là, il a quasiment 50 ans.
Pour vous, c'est le premier biologiste, en fait, Lamarck, ou pas ?
En tout cas, c'est le premier à dessiner ce que va devenir la biologie à partir du 19e siècle. Mais il ne va pas savoir complètement franchir le pas entre ce qu'on pourrait d'un côté appeler l'intuition et de l'autre côté ce que l'on pourrait appeler la réalisation d'une biologie effective.
Laurent Loison, on va faire connaissance dans un instant avec les successeurs de Lamarck, Schwann, qu'on connaît moins bien, Darwin, Claude Bernard, qui vont donner à la biologie ses fondations expérimentales et théoriques. Et puis vous pourrez répondre aux messages et aux questions qui arrive pour vous sur la page de la Terre au Carré.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
La science des vivants, lorsque elle s'est bornée à être la science des formes, comme l'était l'histoire naturelle, dont l'essentiel consistait dans une description et une classification, une taxinomie, cette histoire naturelle n'a pas réussi à rendre compte de ce que c'était que le vivant. Et alors, nous sommes presque, en suivant le cours de l'histoire des idées, le cours de l'histoire des sciences, nous sommes presque conduits, cette fois, à passer du concept de forme à celui d'organisation et à nous demander si ce qui caractérise le vivant, c'est ce mode d'être que on appelle l'organisation.
La voix du philosophe Georges Canguilhem sur la radio-télévision suisse, c'était en 1967. Laurent Loison, vous qui êtes historien et qui publiez l'aventure de la biologie chez Grasset, et qui d'ailleurs passait la journée avec Georges Canguilhem. C'est le hasard, mais c'est comme ça.
Oui, tout à fait, puisque aujourd'hui se tient à l'École normale supérieure à Paris un colloque organisé par mon collègue québécois Pierre-Olivier Métaux sur la postérité de Georges Canguilhem.
Ouais.
Et cette postérité, elle est toujours d'actualité, comme le montre d'ailleurs cet extrait.
Que alors, le vivant, c'est l'organisation, c'est ce que vous nous expliquiez déjà tout à l'heure avant la pause.
Oui, donc c'est l'intuition de la marque. Le vivant, c'est l'organisation, et cette intuition va devenir programme de recherche après la marque, pour la génération de chercheurs qui viennent après lui,
ouais,
qui vont essayer de creuser cette question de l'organisation sans forcément en avoir bien conscience, hein, évidemment, puisque quand on est la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément d'où viennent les choses. Darwin va poser la question du point de vue de l'histoire et de l'évolution. Theodor Schwann va poser cette question du point de vue de la nature, de ce que c'est fondamentalement que l'organisation biologique. Claude Bernard, parmi d'autres, va poser la question de la manière dont cette organisation permet les processus physiologiques, etc., etc.
Donc là, on est quoi ? On est entre les années 1830-1860 à peu près, trois décennies hyper fructueuses avec ces trois figures-là que vous avez citées. Alors, Theodor Schwann, je ne le connaissais pas. Et qui est-il exactement ?
Donc, Theodor Schwann est un médecin allemand. À l'époque, la biologie n'existe pas en tant que cursus académique. Donc, la plupart des gens qui vont s'intéresser aux sciences de la vie viennent d'autres disciplines, et notamment de la médecine. Ce sera le cas de Schwann comme de beaucoup d'autres, comme de Claude Bernard, lui-même formé comme médecin. Et à la fin de ses études de médecine, l'espace de quelques années, environ 5 ans, il va avoir une productivité scientifique considérable. Et cette productivité va culminer avec le premier énoncé de la théorie cellulaire, avec cette idée fondamentale que les vivants partagent tous quelque chose de commun et que ce quelque chose, c'est l'organisation cellulaire de leur anatomie.
Ouais. Et ça, comment on va le recevoir à l'époque ?
Et ça apparaît comme une révolution, puisque depuis déjà quelques années, se pose cette question du commun entre les végétaux et les animaux. Au XVIIIe siècle, les plantes et les animaux sont rigoureusement différenciés dans des règnes au sein de l'histoire naturelle, et les plantes et les animaux sont aussi différents que les minéraux ou les plantes, par exemple. Et donc, on ne considère pas que la vie serait un trait d'union plus important qu'un autre. Et précisément, c'est ça qui change au XIXe siècle, et Schwann va s'attacher à montrer que, quand bien même au microscope, les choses peuvent être d'apparence différente, eh bien, fondamentalement, les êtres vivants, qu'ils soient animaux ou végétaux, sont structurés de la même façon par une entité autonome, indivisible, l'atome du vivant qu'il va dénommer avec d'autres la cellule. Ouais.
Donc il y a une portée philosophique aussi à ces découvertes, très forte, qui doivent évidemment vous intéresser, vous, en tant que philosophe.
Il y a une portée philosophique qui est inséparable de l'aventure scientifique. Une aventure scientifique est nécessairement aussi une aventure philosophique dans le sens où la science produit des questions que la philosophie également soulève ou tente de résoudre à son tour. Et Schwann va être extrêmement épris de philosophie. Ça va même un certain moment croiser ses propres préoccupations métaphysiques.
Ouais.
Tant et si bien que sa théorie cellulaire, extrêmement matérialiste, dans le sens où à partir du moment où les vivants sont constitués par des cellules, il n'y a plus le mystère de ce que c'est que la nature de la vie, Schwann va être marqué par sa propre découverte et se détourner de la science. Il va rencontrer une sorte de crise mystique, puisqu'il était en même temps quelqu'un de relativement croyant, et il va du coup ne plus rien produire de scientifique pendant 4 décennies, jusqu'à son départ à la retraite.
Ouais. C'est le premier biologiste en crise existentielle.
Tout à fait.
C'est ça.
C'est la biologie qui produit une crise existentielle, ouais, chez l'un de ses pères fondateurs.
Arrive ensuite le Galilée de la biologie, mesdames et messieurs, Charles Darwin, qui lui incarne un autre tournant. Pourquoi exactement ? Parce que si tout le monde, à peu près tout le monde connaît Charles Darwin de nom, c'est toujours compliqué d'expliquer exactement ce qu'il a découvert.
Oui, alors Darwin, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelqu'un qui vient à la suite de Galilée, dans le sens où son œuvre s'inscrit pleinement dans la révolution scientifique, qui en première approximation peut se caractériser comme la volonté de trouver des causes naturelles aux phénomènes naturels.
Et alors qu'on n'est pas du tout dans les mêmes siècles. Hein,
bien sûr, et cette révolution prend du temps en fonction des domaines que va explorer la raison scientifique. Et c'est beaucoup plus difficile du point de vue de la biologie, parce que une cause naturelle, c'est par définition une cause qui n'est pas une cause finale, où on ne va pas chercher des projets, des intentions dans la nature, sinon on sort du domaine de la rationalité scientifique. Mmh. Et les êtres vivants semblent montrer des intentions à tout point de vue. L'œil semble fait pour voir, l'aile semble faite pour voler. Mmh. Et donc la grande idée de Darwin, c'est que tout ça peut s'expliquer mécaniquement, scientifiquement, si on possède un nouveau concept, celui de sélection naturelle. Donc la grande révolution darwinienne, c'est la solution qu'il propose à la question de la finalité apparente du monde vivant qui peut être justiciable d'une explication pleinement scientifique.
Donc il y a la sélection naturelle, et est-ce qu'il y a une autre idée fondamentale de sa théorie ?
Et cette sélection naturelle ne se comprend qu'à l'échelle des temps géologiques, c'est bien sûr l'évolution par sélection naturelle, hein. C'est le fait que la généalogie, qu'il y a une généalogie du vivant, une descendance avec modification, c'est le terme qu'il emploie, il ne parle pas d'évolution, une descendance avec modification sous l'effet principal, mais non exclusif, comme vous l'avez rappelé dans l'extrait tout à l'heure, de la sélection naturelle. Et donc l'œil s'explique par la sélection naturelle, l'aile s'explique par la sélection naturelle.
Donc les espèces ne sont pas fixées, hein. Elles se transforment.
Les espèces se transforment historiquement et se transforment de manière opportuniste, hein. Il inscrit l'évolution dans l'histoire, dans quelque chose qui n'est pas prédéterminé. Et c'est là aussi où il y a une différence entre Darwin et Lamarck. Chez Lamarck, il y a une certaine quand même prédétermination encore des formes vivantes et le temps est surtout là pour permettre à ces formes de se révéler. Alors que chez Darwin, il y a vraiment la question de la contingence de l'évolution, du hasard, qui est assez pleinement embrassé.
Laurent Loison, est-ce qu'il y a une dimension écologique dans la pensée de Darwin ?
Et il y a une dimension alors écologique dans le sens scientifique, oui, dans le sens géographique, dans le sens, bien sûr, d'une compétition pour les ressources. Hein. Darwin raisonne en géographe, il raisonne en termes d'espace écologique, là où Lamarck raisonnait plutôt en physicien et en termes de temporalité continue. Donc c'est d'abord cette concurrence vitale, ce struggle for life, que Darwin va tenter de théoriser, de comprendre. Et c'est à partir de là, à partir de cette compétition écologique, de cette vision compétitive des interrelations entre les organismes vivants, qu'il va proposer son principe de sélection naturelle.
Alors vous qui proposez donc une grande aventure de la biologie, Darwin et l'origine des espèces d'ailleurs à elle seule, c'est une épopée scientifique, hein, parce que c'est une aventure qui a duré quoi, 20 ans à peu près ? Une aventure de patience surtout ?
Oui, mais ça c'est un trait que l'on va retrouver chez beaucoup de ses protagonistes. Hein. Pour faire des grandes découvertes, il faut avoir du temps, il faut sans cesse remettre à l'ouvrage son travail.
Le philosophe... Et brasser des milliers d'observations.
Voilà. Hein, c'est... Le philosophe Bachelard disait que les scientifiques sont avant tout des travailleurs de la preuve, et Darwin a fait ça. Il a travaillé ses preuves pendant 2 décennies, à la fois pour être satisfait de son produit final, et aussi parce qu'il craignait les réactions de la société victorienne de l'époque. Lui qui était extrêmement prudent et qui voulait avoir une vie en retrait de la vie publique. Et
quand il écrit dans l'introduction de l'origine des espèces que Wallace a découvert exactement la même chose que lui, comment le vit-il et est-ce que c'est tout à fait exact ? Et pourquoi Wallace n'est pas passé à la postérité alors que c'est le cas de Darwin ?
Alors, il le vit plutôt mal évidemment sur le moment, puisqu'il a l'impression qu'il va être dépossédé, puisque la lettre de Wallace arrive en 1858. À ce moment-là, ça fait 20 ans, très précisément, que Darwin travaille à cette théorie de l'évolution par sélection naturelle et donc il a l'impression qu'il est sur le point d'être dépossédé d'un travail de 2 décennies, ce qui est considérable.
Et donc comment il reçoit
C'est une impression de première lecture. Mais en fait, on sait maintenant qu'il y a des différences substantielles entre la théorie de Wallace et celle de Darwin, et que le principe de sélection naturelle chez Darwin est beaucoup plus consistant, beaucoup plus développé qu'il ne l'était chez Wallace. Darwin envisage la sélection naturelle d'abord comme compétition entre les individus au sein d'une population, alors que chez Wallace, on a quelque chose qui ressemble plus à une compétition entre les espèces et à une élimination de certaines espèces. C'est-à-dire une forme beaucoup plus simpliste du concept de sélection naturelle, ce qui n'a rien d'étonnant. Wallace est beaucoup plus jeune et il n'a pas 2 décennies de recherche derrière lui au moment où il envoie son article à Darwin.
Il est originaire d'où d'ailleurs Wallace ?
Wallace est anglais également. Je ne pourrais plus vous dire exactement de quel.
J'avais l'Australie en tête, mais peut-être
Non. Il est à ce moment-là. Il est en Indonésie pour faire un travail de naturaliste. Il gagne sa vie en envoyant des spécimens aux collectionneurs d'Europe. Donc c'est pour ces raisons-là qu'il se trouve en Indonésie, mais lui-même est anglais également.
Autre personnage, dernier personnage d'ailleurs de ce triptyque, le médecin français Claude Bernard. Alors lui, qu'est-ce qu'il apporte, puisqu'il est le fondateur de la physiologie expérimentale ? Qu'est-ce qu'on lui doit exactement ?
Donc Claude Bernard, ce qu'il apporte d'un point de vue théorique, c'est cette idée que cette organisation biologique, elle a comme caractéristique propre d'être capable d'autorégulation. C'est quelque chose qui se maintient dynamiquement au cours du temps, au fil d'échanges ininterrompus entre l'intérieur et l'extérieur, entre le vivant et son milieu. Tant et si bien que ces cellules, à l'intérieur des corps vivants, elles sont rattachées à l'extérieur par une entité régulatoire, régulatrice, une entité complexe qu'il va appeler le milieu intérieur.
Ouais.
Et c'est grâce à ça que Claude Bernard comprend la portée de ses réussites expérimentales. Donc d'un point de vue théorique, c'est ça qu'il apporte. les bases de la physiologie moderne. Et d'un point de vue expérimental, c'est une pratique de la vivisection expérimentale sans précédent et sans équivalent qui va lui permettre de parvenir à une foule de découvertes et à vraiment faire surgir un nouveau domaine empirique, la physiologie expérimentale de laboratoire.
Alors c'est ça, dans la méthode scientifique, en fait, il diffère un petit peu des deux précédents ?
Ah, complètement. Alors, de Schwann, pas complètement, mais malheureusement, la carrière de Schwann s'est arrêtée au bout de seulement quelques années. Mm-hmm. Le Schwann du tout début, celui d'avant la théorie cellulaire, finalement, est très proche de Claude Bernard, en ce sens qu'il est aussi un physiologiste expérimentateur qui va travailler, par exemple, sur la contraction musculaire et qui va faire un certain nombre de travaux directement sur des muscles. Claude Bernard fait cela, Darwin, pas du tout. Il a été, pendant son voyage à bord du Beagle, un naturaliste de terrain.
Oui.
Il sera ensuite ponctuellement expérimentateur quand il va s'intéresser à la botanique, mais l'origine des espèces ne doit rien à l'expérimentation. Il n'y a pas une seule preuve expérimentale d'évolution à l'intérieur de l'origine des espèces. C'est plutôt un raisonnement hypothético-déductif sur la totalité des faits connus de l'histoire naturelle. Claude Bernard, lui, pose de nouvelles questions et il entend bien y répondre à l'aide de la méthode expérimentale dans les caves du Collège de France de l'époque.
Ouais. Une pensée pour tous les animaux, peut-être, hein, qui ont payé un lourd tribut aux méthodes de Claude Bernard.
Hein. Effectivement, ça ne s'est pas fait sans cobayes, et donc il a beaucoup expérimenté sur les grenouilles, sur les chiens, à une époque, au début de sa pratique, où il n'y avait rien pour endormir les animaux. Et donc il fallait être capable de les maintenir physiquement en vie, alors qu'on leur faisait bien sûr subir des traitements extrêmement invasifs.
Pourquoi vous associez ces trois figures, alors Schwann, Darwin et Bernard, dans un même mouvement en réalité ? Qu'est-ce que ça raconte, ça ?
Oui, et puis on pourrait rajouter Grégoire Mendel là-dedans, et puis quelques autres. Hein. Après, il a fallu faire un livre qui soit d'une taille raisonnable. Eh bien, tous ces savants, sans forcément en être conscients, encore une fois, participent de cet essor de la biologie en tant que science de l'organisation et font vraiment surgir de nouveaux îlots de rationalité du côté de l'évolution des espèces, du côté de la théorie cellulaire, du côté de la physiologie. Et ça va marquer pour toujours, jusqu'à aujourd'hui, la biologie.
Laurent Loison, vous vous interrogez dans ce livre sur ce que cela signifie de raisonner sur le vivant à l'époque aussi de la post-vérité et de la crise écologique. On va en parler dans un instant et puis vous répondrez également aux messages pour vous, aux questions sur la page de La Terre au Carré et vos messages vocaux sur l'application Radio France.
France Inter. La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
J'ai voulu montrer que les problèmes fondamentaux de la biologie peuvent être précisés à partir de considérations très simples, par l'examen des caractéristiques de ce qu'on peut appeler les objets vivants, les êtres vivants, et des objets non vivants. Vous savez qu'on a souvent dit qu'il est très difficile de définir la vie. Effectivement, c'est difficile. Mais si on prend une question mieux posée, si nous demandons quelle est la différence entre ce que nous appelons des êtres vivants, les objets vivants, et les objets naturels, alors nous arrivons assez facilement à des définitions.
La voix du biologiste Jacques Monod, 1971, archives de l'ORTF. Laurent Loison, vous qui êtes historien et philosophe des sciences, avec cet ouvrage « L'aventure de la biologie de Darwin à Mendel ». Si vous écriviez justement la suite, avec une histoire du XXe siècle, est-ce que Jacques Monod en ferait partie ?
Bien sûr, puisque l'aventure de la biologie du XXe siècle s'est largement jouée autour d'un concept, celui de gène, que ce soit du côté de la théorie de l'évolution ou du côté de la biologie moléculaire. Et il ne fait aucun doute que la contribution du groupe de l'Institut Pasteur et de Jacques Monod de ce point de vue-là est tout à fait décisive.
1971, d'ailleurs, la date de cette archive, ça correspond à quoi chez ce biologiste ?
Ça correspond aux mois qui ont suivi l'apparition de son best-seller mondial, Le hasard et la nécessité, à l'intérieur duquel Monod tente de tirer les conclusions philosophiques de cette nouvelle biologie moléculaire et de ce que ça vient bouleverser du point de vue de notre réflexion.
Comment vous expliquez le succès d'ailleurs de ce livre à l'époque ? Parce que ça reste de la science pas forcément très simple d'accès. Hein.
Non, c'est un ouvrage difficile, pas très volumineux, donc ça c'est déjà un bon point pour Jacques Monod. Et il faut aussi se rappeler le contexte de cet ouvrage, c'est les années 60, c'est la fin des années 60, le début des années 70, le moment où vraiment, notamment en France, il y a une appétence pour la chose intellectuelle, c'est le moment des grands intellectuels, c'est le moment de Foucault. Hein. Foucault vient de publier Les mots et les choses, l'archéologie du savoir. Et donc il y a une sorte d'effervescence comme ça autour des grandes questions.
Et là, il y a
livre.
La philosophie, justement.
Voilà, ce livre qui se veut un essai sur la philosophie naturelle de la biologie, c'est le sous-titre, rentre pleinement dans ce contexte-là extrêmement porteur.
Et ça touche le public.
Ça touche le public. Le style de Monod est extrêmement incisif, extrêmement polémique. Et l'ouvrage va être traduit dans de nombreuses langues et il va aussi avoir un certain succès dans d'autres pays que la France.
En quoi il est polémique ?
Il est polémique parce que Monod, prend position par rapport aux grands philosophes et distribue les bons points et les mauvais points entre Hegel, Bergson et Marx. Et bien sûr, c'est vu avec une certaine morgue et arrogance par les philosophes professionnels.
Ouais. Vous rappelez que produire une science de la vie, ça n'a rien d'évident. Toujours aujourd'hui ou pas ?
Toujours aujourd'hui, la science a été fondée à partir du début du XVIIe siècle, la science moderne, d'abord sur des choses non vivantes, sur des phénomènes non vivants, hein, le déplacement de corps physiques, etc. Et donc la manière dont la science existe n'a rien à voir avec la vitalité du vivant. Et quand la science mécaniste a dû tenter d'appréhender ce qui fait la vitalité de la vie, elle a d'abord été déconcertée et ça a été extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'il a fallu tout ce temps, c'est pour ça qu'il a fallu plusieurs siècles pour qu'on ait des concepts adéquats pour penser le vivant dans sa spécificité. Et donc il y a toujours un peu cette tension à l'intérieur de la science entre sa nature mécaniste et qu'on pourrait dire réductionniste et le fait que le vivant ne se laisse pas aisément réduire à ce genre de choses. Donc la science de la vie a été possible, mais elle est toujours un petit peu sur le fil du rasoir et il faut toujours qu'elle préserve la spécificité de son objet.
On peut dire que la biologie a trouvé une sorte de terrain d'entente avec le réel, c'est une formule que vous utilisez. Hein.
Oui, parce que c'est toujours la façon dont les sciences arrivent à maturité, c'est quand elles trouvent un terrain d'entente avec le réel, c'est quand elles arrivent à habiter un espace empirique, et pour ça, il faut un cadre conceptuel adéquat. Et c'est précisément ce que vont offrir Darwin, ce que vont offrir Mendel, Claude Bernard et d'autres, même si parfois il y aura un décalage de plusieurs décennies entre les postulations et la science effective.
Oui.
Le darwinisme ne devient réellement une science qu'à compter des années 1930 et 1940.
C'est ça.
Bien
mais,
après,
mais ils ont eu le don, le génie d'inventer un savoir finalement que personne avant eux n'avait pu anticiper.
Oui, ils ont permis la création d'un espace de rationalité, de ce terrain d'entente, même si après, il va falloir pas mal de temps pour qu'on puisse réellement habiter ce terrain. Il faudra le développement de la génétique des populations pour que la théorie de l'évolution par sélection naturelle fasse la preuve de son entière rationalité. Il faudra la biologie moléculaire pour que l'on comprenne fondamentalement ce qu'est physiquement qu'un gène mendélien, etc., etc. Donc parfois, le décalage temporel est considérable. Il n'empêche que...
ça valide en tout cas... Voilà. Les
premiers germes de cette connaissance de la vie viennent du 19e siècle, viennent des années 1830-1860.
Ouais. Est-ce que la biologie, justement, crée des ponts très souvent avec les sciences humaines, parce qu'on parlait de la philosophie, est-ce que ça, c'est important aussi autour de la biologie ?
Alors, ça peut être important, ça peut se faire. Il y a un peu toutes les configurations qui ont eu lieu à travers l'histoire. On sait que Foucault s'est beaucoup intéressé lui-même à la biologie. Hein,
ouais.
Et d'ailleurs, ce qu'il retire des mots et les choses, une des leçons des mots et les choses, c'est précisément ça, c'est que la biologie n'était pas pensable à l'âge classique et qu'il a fallu une nouvelle épistémée, pour reprendre son terme, celle qui commence au début du 19e siècle pour qu'on puisse penser la biologie. Donc, il y a pu avoir comme ça des relations entre la biologie et la philosophie. Georges Canguilhem, dont on parlait précédemment, et bien sûr un exemple de ça. Après, il peut aussi y avoir malheureusement complète indépendance entre les sciences humaines et la biologie, et notamment actuellement. Peut-être que certains travaux ne prennent pas suffisamment en compte le fait que l'humain, si certes il est pris dans un réseau de détermination sociologique, est aussi un corps biologique. Il y a des sociologues qui tentent de faire ça. Je pense par exemple actuellement à quelqu'un qui s'appelle Bernard Lahire et qui essaie de construire des ponts entre la sociologie, une théorie de la manière dont les sociétés humaines se sont formées, et la spécificité biologique du vivant humain.
Et pourquoi c'est important justement de le réinscrire dans la biologie alors ?
Mais parce que sinon, on est voué à poser des questions qui sont au mieux partielles. Mmh. Par exemple, quand on... Le concept de genre est extrêmement important pour penser le décalage entre le biologique et le social ou le politique. Mais décoller complètement le genre du sexe biologique, c'est c'est aussi quelque chose qui peut faire difficulté. Et donc peut-être qu'il aurait intérêt du côté des sciences humaines à avoir une meilleure connaissance de ce que c'est que la biologie. Et ça ne veut pas dire, bien sûr, réduire le vivant humain à sa biologie. Ça veut simplement dire que voilà, il y a un certain nombre de contraintes qui expliquent, qui peuvent avoir un rôle explicatif dans la façon dont l'humanité s'est constituée, y compris du point de vue de sa culture et de ses civilisations.
La biologie, elle joue un rôle majeur aujourd'hui aussi au cœur de la crise écologique, incontestablement.
Oui, on pourrait espérer qu'elle le joue davantage, et malheureusement, qu'elle soit beaucoup plus entendue, mais bien sûr, l'écologie est une science, et l'écologie a un discours rationnel sur les choses assez terribles, malheureusement, qui sont en train de nous arriver.
Laurent Loison, on passe aux questions qui sont arrivées pour vous. Patrick nous dit ceci, vous situez le premier biologiste avec Lamarck, quelle place accordez-vous dans la construction de cette science à Linné et Buffon? Alors, deux autres noms connus du public.
Qui appartiennent au XVIIIe siècle, pour le coup, puisqu'ils sont nés tous les deux en 1707, et qui sont les grands représentants de ce qu'on appelait l'histoire naturelle à cette époque-là. Et c'est quelque chose qui est... Qui peut être compris comme relativement différent de la biologie. Et c'est un peu ce que Canguilhem essayait d'expliquer dans l'extrait qu'on a passé tout à l'heure.
Avec la classification d'un côté.
Il s'agissait, dans un espace continu des formes, de distribuer les espèces et d'essayer, pour Linné, d'avoir un système de la nature dans le sens d'une compréhension vraiment spatiale de la répartition de ces formes, sans interrogation sur ce qu'est la vie d'un point de vue physique et ce qui pourrait donner lieu à la vie du côté de l'organisme. Alors c'est moins vrai pour Buffon, il y a déjà un peu ce type d'interrogation. Hein. Buffon préfigure davantage le 19e siècle de ce point de vue-là que Linné, mais il y a quand même un hiatus entre le 18e siècle et le 19e siècle.
On va écouter le message pour vous de Marie-Hélène.
Bonjour, moi j'ai plus de 50 ans aujourd'hui et à l'époque, à l'école, on n'appelait pas ça la biologie, on appelait ça les sciences naturelles. Est-ce que c'est dans la perte de ce terme de science pour parler de biologie qu'on n'aurait pas perdu cette dimension scientifique?
Merci Marie-Hélène pour cette question. Laurent Loiseau, vous lui répondez.
Alors, je ne sais pas très bien dans quel sens elle entend sa question, si c'est le passage des sciences naturelles à la biologie qui serait problématique ou l'inverse.
Mais c'est le fait qu'on n'appelle plus justement ça science naturelle, mais biologie.
Alors, le problème pour moi, il est bien au-delà de ça. Dans les programmes d'enseignement du secondaire, on appelle ça les SVT. Et rien que le sigle, je trouve, est assez terrible. Science de la vie et de la Terre, alors qu'on a un mot extrêmement puissant pour qualifier la science des phénomènes vitaux, ça s'appelle la biologie. C'est le terme historique. C'est un terme qui a une vraie consistance à la fois théorique, philosophique et historique. Et donc malheureusement, on a un peu perdu ce terme. Mmh. Et je trouve ça dommage.
Il y a une question pour prolonger, celle de Delphine. Vous parlez d'un antidote à la déconsidération de la biologie. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous à l'enseignement justement pour remédier à cela?
Ah, c'est vrai, bien sûr une question difficile, puisque la critique est aisée, l'art est difficile.
La réponse, oui.
Déjà, ce qu'on pourrait changer, c'est le nom, je pense, pour que les choses soient plus clairement posées. Et puis, fondamentalement, je pense que, bien sûr, il y a une dimension expérimentale très forte du côté des sciences de la vie, mais la biologie n'est pas qu'une science expérimentale, elle est à cheval sur l'histoire et l'expérimentale, et peut-être qu'il faudrait arrêter d'enseigner la biologie simplement à l'aide d'une succession de travaux pratiques où on a l'impression que les choses viennent naturellement de l'observation ou de l'expérimentation. Et resituer le cadre théorique de la biologie, c'est ça qui fait sens.
On va terminer avec le message d'Audrey qui nous dit « Ma fille, très littéraire et artiste, me disait hier, tu vois, autant la physique c'est abstrait et je n'y comprends rien, autant la biologie c'est tout autant abstrait pour moi. En ce moment, ils apprennent le fonctionnement de la cellule en seconde, mais, dit sa fille, je me régale, j'adore apprendre comment la vie fonctionne. » C'est pas mal ça comme conclusion, non?
Oui, parce que c'est vraiment ce qui anime la biologie depuis le début de son histoire. C'est comment la vie fonctionne et d'où elle vient. Et bien sûr, c'est cette question qu'il faut essayer de préserver coûte que coûte.
Une grande saga autour de la biologie s'appelle L'aventure de la biologie de Darwin à Mendel. C'est ce que vous publiez chez Grasset. Laurent Loison, merci d'être venu nous en parler aujourd'hui à ce micro.
Merci beaucoup.